Alors, neuvième de Radio Barque, cette deuxième partie nous amène à parler du musée de Totavel, un musée de la préhistoire qui est sérieusement menacé, Michel.
Oui, oui, alors je tiens à en parler parce qu'il se trouve que je connais bien Henri de Lemelay, avec qui, bon, je dis ça en toute modestie, bien entendu, mais quand j'étais aux manettes à la région à l'époque, on a, ben voilà, on s'est retrouvés dans des périodes historiques, en fait, tous les deux, où on a mis en place une relation institutionnelle, en fait, et politique et financière, par l'intermédiaire du président de l'époque, évidemment. Moi, je n'étais que le conseiller et l'exécuteur d'un certain nombre de programmes. Et à partir d'une découverte qu'il avait faite en 71, hein, d'un morceau de crâne d'Otavel, de faire un musée, en fait, un musée et un centre de recherche relativement important.
Et il a vu le jour dans les années 90.
Les années 90, c'est ça, voilà. 90.
Donc, et alors aujourd'hui,
avec des financements importants, à la fois sur l'aspect recherche, sur l'aspect culture scientifique, diffusion de la culture scientifique.
Oui, c'était un musée, comme on dit familièrement, qui avait de la gueule. Hein,
en 90, il avait en moyenne entre 160 000 et 200 000 visiteurs par an. Aujourd'hui, ils en sont à 60 000.
Oui, oui. Donc forcément, problème financier et interrogation sur
problème
la survie.
Problème financier très important, d'autant que c'est un musée, c'est paradoxal quand même, compte tenu l'importance de ce lieu, parce qu'il y a un centre de recherche qui est adossé en fait, à l'université de Perpignan, qui occupe 13 chercheurs, que ça, quoi, hein, et qui est géré par un établissement public intercommunal et culturel.
Et, donc, et c'est ça serait menacé aussi.
Non. Alors la partie recherche, bon, à peu près verrouillée par l'État, mais la partie muséale, elle, effectivement, est de sorte qu'aujourd'hui, ils sont quasiment en dépôt de bilan, et ils en sont dans une situation où le président de Lemelay en arrive à dire, ben bon, il faut qu'on ferme tout simplement l'activité muséale et ne l'ouvrir qu'au cours scolaire dans la continuité de la diffusion de la culture scientifique et technique, qui était le projet initial quand même hein, de cette affaire-là. Non, ce que je voulais surtout noter dans cette affaire-là, indépendamment de cette réalité qui est effectivement problématique, c'est que on a là un musée, c'est paradoxal, communal, alors que Totavel est membre de la métropole, donc la métropole ne met pas un sou.
Hein. Donc ça n'est que la commune de
Totavel. Le département ne met pas un sou.
Qui assume.
Et la région ne met pas un sou. Ça veut dire que c'est un musée qui vit avec les recettes muséales, puis avec la petite subvention de la commune. Donc on voit bien là, donc, typiquement, un paradoxe institutionnel tout à fait aberrant, qui fait que on a un musée qui a une dimension plus que régionale, plus que départementale, en fait quasiment régionale. Hein. Il y a des Catalans d'Espagne qui viennent le voir, en fait, qui a une fonction aussi éducative, qui a une fonction de recherche, et qui est complètement oublié, si je puis dire, par les grandes institutions qui, pour chacune d'entre elles, ont une compétence qui concerne effectivement ce type de musée. Je ne sais rien, moi, hein, le tourisme, la région, le département et la commune.
Oui, donc apparemment, ça n'est pas le cas.
L'économie, en fait, l'économie, la métropole, ben non.
D'où la menace. Ce qui pèse effectivement
donc,
sur ce musée.
Il va y avoir probablement une réunion dans les jours qui viennent pour savoir monsieur la région, madame la région, madame ou monsieur le président du département, monsieur le président de la métropole, comment on fait quoi.
Qui fera quoi et il ne s'agira pas simplement de faire une manifestation.
Un sérieux,
mais
et je note
de décider.
Je note entre parenthèses, Jean-Claude, que cette baisse de fréquentation des musées n'est pas spécifique au musée de Totavel. On la constate pratiquement dans toute la région.
Générale.
Je renvoie pour ceux qui peuvent y aller ou qui ont intérêt à y aller ou qui avoir plus d'informations sur le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la politique touristique de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Ils auront des chiffres très parlants à ce sujet.
Oui.
Et entre parenthèses, d'ailleurs, pour nos auditeurs, je leur signale que, s'ils ne savent pas, que le musée le plus visité de la région Languedoc-Roussillon et la région Occitanie est le musée Haribo, dans le Gard. On va visiter une entreprise qui fait des bonbons et on en ressort avec des paquets de bonbons.
Haribo avec un H. peut-être. Alors oui, un mot peut-être là-dessus, Monsieur le député.
Mais moi, ce musée, d'abord, je suis allé le voir et je trouve que c'est un morceau important de notre histoire. Je pense qu'il faut mener une réflexion globale sur la question du tourisme du musée. Au niveau de Narbonne, et de la Narbonnaise, nous avons déjà travaillé sur ce sujet-là. Moi, je me souviens, au moment où nous avions travaillé sur le musée de la Romanité, un des axes forts était la capacité que nous aurions à développer un projet autour de ce musée. Voilà. Mmh. Donc pendant quelques temps, je m'y suis employé dans les fonctions qui étaient les miennes. Je continue à le faire et c'est sûrement un sujet sur lequel je reviendrai autour de la ligne TGV tout à l'heure.
Peut-être, voilà. Alors, peut-être un enchaînement sur ces problèmes financiers. Notre théâtre, connaît lui aussi des problèmes financiers. Tu l'as déjà évoqué à ce même micro. Mais il semblerait que sur l'avenir du théâtre ou des théâtres scène nationale, il y ait quelque chose qui se profile.
Oui.
Alors peut-être ça serait le moment d'en parler.
Il se trouve que un journaliste spécialisé sur ces questions, Michel Guérin du Monde, a sorti un papier intéressant sur un rapport secret, je mets guillemets autour de secret, parce que bon, la ministre a menacé ceux qui utiliseraient ce papier de poursuivre devant les tribunaux. Donc il est sorti dans Le Monde. Un seul article, point barre, en fait, et il a disparu du paysage ensuite. Et dans ce rapport secret, pour une fois, note ce journaliste, les experts qui sont réunis, qui ont été réunis par la nouvelle ministre, sont allés vraiment à l'os, quoi. Hein, sans aucun tabou, sans aucun préjugé.
Alors, pas de démagogie.
Pas de démagogie.
Ils sont allés au fond.
Hein, et dans ce rapport, il y a notamment quelques lignes, en fait, quelques lignes, une bonne page, sur les théâtres labellisés scène nationale. Et qu'est-ce que dit? Alors, je sais pas ce que dit explicitement le journaliste et en rapportant à la lettre les mots en fait, des experts, mais c'est ce que j'en ai déduit, hein, c'est que ce label et cette politique qui tourne autour des théâtres nationaux, son économie était arrivée au bout du bout et qu'il fallait en sortir. Alors, que je rappelle à nos auditeurs que le label scène nationale est un label qui impose en fait, aux collectivités qui ont décidé, qui ont choisi que leur théâtre
le porterait.
Et ce label les oblige à un certain nombre de contraintes à la fois d'ordre gestionnaire et d'ordre programmatique. Alors d'ordre gestionnaire dans la mesure où il est interdit par ce label à des élus qui financent le théâtre, c'est le paradoxe, hein, d'être dans le bureau, effectivement, qui décide de la gestion du théâtre.
Oui, ça, effectivement, comme
par exemple, Jacques Bascou ne peut pas être au bureau du théâtre à Narbonne.
Voilà.
Impossible.
Par contre, en tant que président, il aligne les subventions.
Il aligne les subventions. Premier paradoxe. Et alors, deuxième contrainte, la programmation, évidemment, elle est totalement entre les mains du directeur ou de la directrice, qui, en plus programmation, obéit à un cahier des charges précis en fait, du ministère, qui, en gros, dit, voilà, ben, vous devez privilégier la création contemporaine, en fait, artistique, etc. Donc,
et on a réussi à créer des petits États dans l'État sans que le financement soit assuré. Finalement.
D'une certaine manière. Ça veut dire que, au fil du temps, ce qui s'est passé, c'est que des théâtres, peut-être pas tous, mais en tout cas, je pense pouvoir dire que le nôtre, en fait, est arrivé à cette situation-là aujourd'hui. Les théâtres se sont trouvés complètement coupés, en fait, de leur territoire, de leur aire d'implantation, coupés au sens à la fois physique pour Narbonne, parce que bon, au plan urbain, on ne peut pas dire qu'il y a de la fluidité entre le théâtre et le centre-ville, par exemple, mais aussi en termes sociaux, en fait, politiques, hein, des acteurs principaux, en fait, parce qu'il y a des gens qui font du théâtre ici à Narbonne, il y a des acteurs culturels, il y a des acteurs politiques.
Ils se sont renfermés dans une tour d'ivoire,
voilà,
un peu. Quoi.
De sorte qu'aujourd'hui, effectivement, l'État et ce qui figure dans ce rapport, se pose la question de savoir si effectivement il faut continuer comme ça, pour ne pas dire de manière beaucoup plus explicite, en fait implicite en tout cas, qu'il faut arrêter.
Qu'il faut mettre
alors,
fin.
C'est vrai qu'il y a le contexte budgétaire qui explique cela, mais quand même, je crois que la ligne qui est proposée implicitement aux élus est de dire, écoutez, bon, maintenant, si vous voulez, hein, parce que nous le considérons aussi, vous auriez peut-être intérêt à reprendre effectivement les billets, donc à vous passer du label, pour faire.
Et redescendre sur terre, peut-être, d'une certaine façon.
Et puis surtout, refaire confiance aux élus et aux acteurs du territoire dans leur capacité à mettre en place des politiques culturelles qui ne soient pas démagogiques dans les deux sens que l'on pourrait donner à ce terme. C'est-à-dire démagogique dans le sens vulgaire du terme, c'est-à-dire on va faire du théâtre du boulevard avec pratiquement 300 jours par an, ou à l'inverse, faire de la programmation élitiste, Donc, ça veut dire que, je termine là-dessus, que le postulat qui était posé par le ministère à l'époque, c'était que de dire que un postulat, hein, qui n'est pas démontré, un, les élus sont toujours à la remorque de leurs citoyens, et deux, les citoyens sont notoirement des imbéciles, et quand ils veulent de la culture, c'est la culture de bas niveau, de bas étage. C'est un peu les deux postulats de l'époque qui, aujourd'hui, sont remis en question par ce rapport, et qui me semble devoir être étudié par nos élus locaux.
Voilà. Et en tout cas, suivi, puisque pour le moment, nous n'en sommes qu'aux prémices. Peut-être un tout dernier mot, mais très rapidement, sur le retour de Marie-Hélène Fabre. Ça peut tenir en quelques mots, ça, Michel ?
Ben oui, on l'a croyé perdu depuis
l'ancienne députée,
socialiste, les dernières élections législatives, puisqu'elle a été battue par son ancien directeur général des services qui est ici
présent aujourd'hui,
ici à nos côtés. Hein. Bon, c'était amusant d'ailleurs parce qu'elle était directeur des services et en même temps elle avait en charge l'administration communale, donc ça. Voilà, c'est un peu. Ouais.
Mais bon, et bref. Alors ce retour donc, là.
Ah oui, elle a profité de. Alors, entre parenthèses, j'ai appris en lisant le journal parce qu'elle a été interviewée par l'Indépendant que. Elle avait retrouvé son travail, assistante parlementaire de M. Courteau. Bon, travail, assistante parlementaire de M. Courteau. Et donc, elle s'est retrouvée, effectivement, dans les journaux pour une interview et pour signaler que, un, elle avait organisé une réunion autour du thème les femmes et le sport, hein, femmes et le sport, et qui était un prétexte, bon, à dire implicitement, même de manière explicite, voilà, bon, je suis là. J'ai l'intention de revenir en politique. Attendez-vous à ce que je prenne des initiatives dans quelques temps. Et messieurs, bon, je cite pour aller vite, hein, Bascou, Sainte-Cluque, Catherine Bossis, ouais. Fête et d'autres.
Comptez sur moi.
Attendez-vous bon, à ce que je me pointe dans le paysage rapidos pour les prochaines municipales. Et voilà, donc on va s'expliquer.
Eh bien,
donc ouais. Il va se passer des choses probablement dans les mois qui viennent.
Enfin,
côté gauche de la scène politique narbonnaise.
On verra si l'interprétation de ton message, de ce message, Michel, correspond à la réalité et on marque une deuxième pause à la suite de laquelle nous interviewerons longuement notre député Alain Perea.